Vous écoutez
RMC.
Mercredi 8 juillet,
l'info sur RMC.
Il est 6h juste, merci d'être avec nous sur RMC et sur RMC Découverte. C'est Céline Kallmann qui est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Castex lâche du lest, 7,5 milliards d'euros de revalorisation pour les soignants. Le Premier ministre l'a annoncé lui-même. Jean Castex, invité exceptionnel de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV. Les militantes féministes ulcérées par la nomination de Gérald Darmanin à l'intérieur, visé par une plainte pour viol. Il doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence, dit le porte-parole du gouvernement. Et puis un bac à 91,5% de réussite cette année, record absolu, où le contrôle continu seul a été pris en compte. Bienvenue sur RMC. Des applaudissements aux actes. Donc l'enveloppe de la revalorisation des salaires des personnels soignants à l'hôpital atteint 7,5 milliards d'euros. Et c'est Jean Castex lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle. Le Premier ministre s'est invité à la table des négociations et l'a fait savoir par un tweet dans la soirée. Anne-Sophie Balbière.
Oui. Accompagné d'une photo, il apparaît aux côtés d'une vingtaine de participants au Ségur de la Santé et du ministre Olivier Véran. Le chef du gouvernement qui est donc venu avec son chéquier. Il ajoute plus d'1 milliard d'euros dans l'enveloppe revalorisation des salaires. Voilà qui permettrait une hausse de 165 euros net par mois. Mais les syndicats réclament presque le double. Patrick Bourdillon, le négociateur de la CGT.
Les montants avancés sont insuffisants, et notamment les 300 euros d'augmentation nette mensuelle qui sont attendus par les professionnels. À un moment, le Premier ministre se mouille dans une affaire qui est celle, en tout cas, de vouloir baliser des négociations de façon très ferme. Et derrière cette présence, en tout cas, du Premier ministre, il y a une volonté politique du gouvernement qui n'est pas une volonté, en tout cas, qui va être suffisante si les moyens ne sont pas mis sur la table.
Autre annonce qui n'était pas attendue, Jean Castex souhaite désormais que la question de l'emploi soit intégrée aux négociations. 15 000 créations de postes seraient sur la table, des embauches financées sur la même enveloppe que les revalorisations salariales. Les discussions doivent reprendre aujourd'hui à 14h.
Merci Anne-Sophie. Jean Castex, donc invité exceptionnel de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Jean Castex qui a choisi, en connaissance de cause, de nommer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Une nomination qui ulcère les associations féministes car Gérald Darmanin, premier flic de France, est toujours visé par une enquête pour viol. Blandine, qui manifestait hier soir à Lille, ne comprend pas un tel choix.
On se sent pas écouté, pas compris, on se sent vraiment dégoûté. Le gouvernement avait promis l'exemple. Enfin, pour moi, en fait, l'une des choses qu'un gouvernement doit avoir, c'est la probité, c'est les valeurs. Et une telle accusation, surtout si la justice rouvre le dossier, en fait. Quelqu'un qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas violé ne peut pas être premier flic de France.
Pour le nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le ministre de l'Intérieur doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Alors, que lui est-il reproché? Très exactement, retour sur les faits avec Romain Cluzel.
La première plainte pour viol a été déposée en 2017. Cette femme accuse Gérald Darmanin d'avoir fait miroiter son appui auprès du ministère de la Justice en échange de faveurs sexuelles. À l'époque, Gérald Darmanin a confirmé avoir eu une relation avec cette femme, mais une relation consentie. D'abord classée sans suite en 2018, la procédure est relancée depuis mi-juin par la Cour d'appel de Paris qui demande de nouvelles investigations, des investigations potentielles qui sont entre les mains du magistrat. Mais aujourd'hui, les avocats de la plaignante craignent que l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur influe sur les suites de l'enquête. Pour elle, cela va peser sur l'ensemble de la procédure, quelle que soit l'indépendance dont les magistrats voudront bien faire preuve. Du côté de l'Élysée, on affirme que cette plainte n'est pas un obstacle à la nomination de Gérald Darmanin place Beauvau. Hier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a défendu la présomption d'innocence pour son collègue du gouvernement.
Les féministes également très remontées contre Éric Dupond-Moretti, nommé à la justice. Elles lui reprochent un désintérêt et des attaques contre les prises de parole victimes de violences. Le nouveau garde des Sceaux qui s'est félicité des taux d'occupation historiquement bas, la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Premier déplacement hier, l'épidémie de Covid a permis à de nombreux détenus d'être libérés par anticipation. Le parquet de Bayonne a demandé la mise en examen de deux jeunes hommes pour tentative d'homicide volontaire. Ils sont accusés d'avoir roué de coups dimanche un chauffeur de bus qui voulait contrôler un ticket et exiger le port du masque. Philippe Mouguillot est en état de mort cérébrale. Son épouse témoignera en direct à 7h10 sur RMC. Et puis cet appel à témoins après l'enlèvement de deux enfants par leur père. Ça s'est passé hier matin à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Les enfants de 6 et 7 ans ont été enlevés vers 5h du matin chez leur grand-mère maternelle. La préfecture recommande de ne pas intervenir car le suspect est susceptible d'être dangereux. Il pourrait quitter la France, direction peut-être la Belgique, l'Allemagne ou l'Algérie, à bord d'un nouveau véhicule. RMC 6h04, l'appel à la prudence de Jérôme Salomon dans le journal Le Figaro ce matin. Le directeur général de la santé affirme que le Covid-19 circule toujours. Le relâchement des gestes barrières inquiète le monde médical. En Mayenne notamment, où le nombre de cas a augmenté de 50% en 4 jours. Des chiffres qui se confirment donc sur le terrain. Marie Régnier a suivi un médecin généraliste pour RMC.
Dans le cabinet du docteur Duquesnel, les consultations pour suspicion de Covid ont quasiment doublé depuis une semaine.
Venez, asseyez-vous.
Des patients qui présentent souvent les mêmes symptômes.
Aucune gêne respiratoire, essoufflé.
Et qui, comme Marine, 27 ans, reconnaissent s'être un peu relâchée ces dernières semaines.
Oui, je fais moins attention quand même. Moins qu'au début. Parce que je ne le mets pas tous les jours, hein, mon masque. Plus de confinement, donc je pense que, comme tout le monde se dit, hein, que c'est terminé et que du coup, il ne faut plus faire attention, mais en fait, si.
Mais au-delà des comportements individuels, c'est surtout les manques d'informations et de règles claires qui inquiètent le généraliste.
Comme les autorités ont peur de communiquer sur la circulation du virus dans leur département parce que c'est pas bon pour l'économie, parce que ça va pas être bon pour le tourisme, on est l'été. Bien finalement, on a l'impression que le virus il est plus là. Si les patients, si les Français sont pas informés qu'il y a des risques, pourquoi se protéger? Je crois que les autorités doivent informer la population qui est tout à fait capable de comprendre et puis qu'il y ait des règles.
Et la plus urgente de ces règles selon lui, l'obligation de porter un masque dans tous les commerces et supermarchés.
Santé publique France révèle ce matin qu'un quart des personnes infectées par le Covid-19 n'ont aucun symptôme. On apprend aussi qu'un patient infecté par le coronavirus est contagieux avant même qu'il ne développe des symptômes. Les États-Unis quittent l'Organisation mondiale de la santé. Dans la foulée, Joe Biden assure qu'il annulera cette décision s'il est élu le 3 novembre. Au Brésil, Jair Bolsonaro, contrôlé positif au Covid-19, il a retiré son masque devant les journalistes. Comme ça, vous pouvez voir mon visage et constater que je vais bien, a-t-il lancé. Admis à 91,5%, taux de réussite exceptionnel cette année pour le bac, examen bouleversé, vous le savez, par la crise du Covid, où seules les notes de contrôle continu ont été prises en compte. Il faut maintenant préparer la rentrée prochaine, a dit hier soir Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation sur BFM TV.
Il y a une réussite qui, à ce stade, est la même que celle que l'on a à l'issue des oraux. Le fait que environ 9 élèves sur 10 aient le baccalauréat n'est pas choquant en soi. Ce qui est important, c'est le travail qu'ils ont fourni. Maintenant, nous devons aussi préparer la rentrée prochaine, l'avenir de ces jeunes. Au moment où il va y avoir une crise économique assez grave, nous devons avoir ces jeunes comme première priorité. Et c'est ce qui va se passer à la fois pour que ceux qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur puissent avoir une place. C'est en fait le sujet le plus important actuellement. Pour ceux aussi qui rentrent dans la vie active, qu'on puisse les accompagner pour que, tout simplement, ils aient une bonne entrée dans la vie.
Et puis, peut vraiment mieux faire. Les premières mesures d'urgence pour redresser l'économie n'intègrent pas suffisamment l'enjeu climatique. C'est l'avertissement lancé ce matin par le Haut Conseil pour le climat dans son rapport annuel. La France est très loin de ses objectifs de lutte contre le réchauffement. Il faut inverser le plan de reprise dans les limites du climat et non l'inverse, dit le rapport.
Merci Céline. C'est vrai que nous allons découvrir Jean Castex tout à l'heure. Le Ségur de la santé, ça a l'air de s'accélérer. Il va falloir que des décisions soient prises rapidement parce que le Ségur doit se terminer demain. Donc on va voir ce que dit Jean Castex tout à l'heure. On est à 165 €, je crois, pour le personnel soignant d'augmentation nette. Il paraît qu'à 250 €, les syndicats lâcheraient. On va voir ce que va faire le gouvernement. Je vais pousser Jean Castex dans ses retranchements. On va voir. Ah, lui qui est un amateur de rugby, on va aller à l'embu, droit à l'embu.
C'est bah oui. Plaqué quand même.
C'est un amateur de rugby.
Le mot, on l'a vu à 8h30 sur
droit à l'embu, je mets droit à l'embu. Hein. Bon, allez, il est quelle heure? 6h08. Paraît qu'il y a des souris dans la rédaction là-haut.
C'est vrai.
Il paraît qu'Anaïs Castagna est debout sur sa chaise pour préparer sa matinale le matin.
Des contorsions surprenantes, les deux.
Bon, Anaïs,
Je ne mets plus les pieds par terre. Non, mais j'en pleurerai. Je hurle dans la rédac. Alors, ça fait marrer les collègues, mais pas moi.
J'en ai vu. C'est vrai qu'il y a deux, trois souris qui se baladent, mais c'est sympathique. Elles sont toutes petites.
On avait deux souris à nos pieds ce matin. Ouais, c'est sympathique aussi.
Moi, j'aime bien, évidemment. Alors, justement, est-ce que vous avez la phobie des souris et comment faire pour se débarrasser de souris?
J'ai demandé à Charles de nous ramener Dalida.
Oui, ma chatte, oui. Parce qu'il nous faudrait un chat à la rédac.
Je vais faire hurler les défenseurs des animaux.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Là, on va voir comment réagissent nos auditeurs.
Ah oui, faut-il tuer les souris chez soi?
Bon. Tiens, si nous prenions Chantal, qui est à Vauvert. Vauvert, c'est dans le Gard, la communauté gardoise qui est réunie, là. Chantal, bonjour Chantal.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin, je suis ravie de vous avoir, vous m'entendez?
Eh bien moi aussi ma chère Chantal. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je suis ravie, oui. Je voulais surtout vous dire merci monsieur Bourdin, merci pour votre équipe, vous êtes un journaliste hors pair.
Je ne sais pas.
Non, je dis ce que je pense. Vous êtes le seul journaliste qui peut interviewer des politiques qui n'arrêtent pas de nous parler avec des langues de bois.
Oui,
vous insistez, qui nous prennent pour des billes, et vous êtes le seul journaliste qui arrive à les faire parler, et beaucoup ne veulent pas venir vous voir. Parce qu'ils
Maintenant, de moins en moins, il n'y en a qu'un aujourd'hui qui résiste, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez pourquoi je me tue à le répéter, parce qu'un jour, la dernière fois où il est venu, j'ai eu le malheur, alors là, le malheur, à ses yeux, évidemment, de parler de la perquisition. Alors, franchement, il n'y avait rien de... Mais bon, comme c'est un caractériel, il ne veut plus venir chez moi, mais il y reviendra.
Lui, c'est un cas, on le met à part.
Oui, mais non, mais ils sont tous pareils, ils se ressemblent tous. Vous savez.
Mais je ne m'affole pas, moi, ce qui m'embête, c'est que vous allez me manquer.
Ah ben oui.
Même si votre équipe reste, que j'adore.
Oui, l'équipe est là.
Mais vous allez énormément me manquer parce que vous êtes mon rayon de soleil du matin, parce que je me regarde à la télé tous les matins à 6 heures. Et surtout, vous êtes le seul. À parler du Gard,
c'est sûr qu'on en parlera moins, hein. Ça, c'est certain.
Je sais, mais la promotion du Gard que vous faites, mais fantastique. Moi, j'habite au Vauvert, à 20 km de Nîmes, et je voulais dire à Charles.
Oui, qu'est-ce qu'il y a, Charles?
Vive les crocos!
Ah oui, non, mais
arrêtez
ça...
avec son PSG! Mais nous, on aime les crocos!
Bravo, Chantal! Bravo, les crocos! Merci, Chantal! Allez, je vous embrasse! Merci beaucoup, Chantal! Merci!
Et merci pour tout le boulot que vous faites et pour tout le travail que vous faites! Bravo!
Chantal! Je vous embrasse! Merci! Au revoir, Chantal. 6h12, Jean Castex sera avec nous, c'est parti fort. Ce matin, sera avec nous donc tout à l'heure. Hier, il est arrivé d'une manière impromptue aux négociations du Ségur de la Santé, hier soir. Que va-t-il nous dire à ce propos tout à l'heure? Aujourd'hui, il sera à l'Assemblée nationale à 11h face aux députés, puis au Sénat à 15h. Ensuite, il va rencontrer les partenaires sociaux tout au long de la journée de demain. Il a donc un emploi du temps particulièrement chargé, conseiller dans l'ombre de Nicolas Sarkozy. Monsieur Déconfinement, c'était lui, hein, pendant la crise sanitaire, discret. Très discret, monsieur Déconfinement, Jean Castex, était encore quasi inconnu des Français. Il y a quelques jours, Paul Barcelone.
Jean Castex, un pragmatique, abordable, détendu.
C'est l'accent qui fait ça, sûrement.
Aurélie Gros, la maire du Coudray-Monceau, dans l'Essonne, séduite par le style du nouveau Premier ministre reçu samedi dernier.
Homme de proximité, homme de terrain. Il est venu dans ma commune, qui est une petite commune, puisque c'est 5000 habitants. C'est quelqu'un qui parle avec le cœur, on ressent une forme de sincérité. Il ne paraît pas être... le technocrate sorti de l'ENA, il paraît plutôt être l'élu local qui s'intéresse à ses administrés.
Élu local, Jean Castex l'est depuis plus de 12 ans, maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, où Yves Delcor est son premier adjoint.
Jean Castex, il a trois qualités, l'empathie vis-à-vis des gens, la connaissance, il a une mémoire remarquable, et puis surtout, il a le sens de la pédagogie, ce qui ne gâche rien dans les temps qui courent, où les gens ont besoin de beaucoup de pédagogie pour comprendre ce qui se passe, et pour savoir dans quelle direction ils doivent aller.
Mais trop peu écolo, parfois directif et cassant, Jean Castex ne fait pas toujours l'unanimité. François Pic est l'un de ses opposants historiques à Prades.
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition pour lui-même, non pas pour la planète, mais pour lui-même. Et il sera sans doute un bon serviteur de M. Macron.
Alors l'un des défis de Jean Castex sera peut-être de se démarquer d'Emmanuel Macron, comme a su le faire un certain Édouard Philippe avant son départ de Matignon.
Oui, Quentin Vinet, qui est Jean Castex? Est-ce que sa nomination est une bonne chose? La question est posée dans un sondage Elab pour BFM TV.
Et on voit qu'un Français sur deux n'a pas d'avis sur la question. Pourquoi?
Oui,
pourquoi
parce qu'on ne le connaît pas.
Et bien parce qu'on ne le connaît pas. Voilà, on ne le connaît pas assez pour répondre à la question. C'est ce qui ressort de ce sondage, à part dans le sud-ouest, peut-être la région d'origine de Jean Castex. Alors, est-ce qu'il fera un...
Il est Gersois, à l'origine.
Gersois,
là, il est maire de Prades.
Et élu des Pyrénées-Orientales.
Il était maire de Prades, parce qu'il ne peut plus cumuler, là.
Et est-ce qu'il fera donc un bon Premier ministre, là c'est du 50-50 dans les réponses, avis partagé, Jean Castex dit...
Mais comment voulez-vous le dire aujourd'hui?
Oui, c'est audacieux d'avoir un avis tranché aujourd'hui.
Oui. Il dit qu'il est là, lui, pour avoir des résultats. Sa priorité, ça aussi, il l'a dit, c'est la relance économique du pays. Alors justement, regardons quelles sont les priorités des Français. Ils veulent d'abord des actions pour la santé, puis la sécurité, l'économie et l'écologie apparaissent juste après.
Eh bien, nous allons lui parler de tout cela tout à l'heure, 6h15. Vous êtes sur RMC. Tiens, encore avant de prendre Jean-Éric Brana. Tiens, bon, on va le prendre tout de suite, Jean-Éric Brana. Ensuite, nous serons avec Antoine, qui est chef de cuisine à Lyon. Jean-Éric, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Un maître de conférence à l'Université de Paris 2, spécialiste des États-Unis. Donald Trump a donc retiré officiellement les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il accuse d'avoir mal géré la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé un sénateur américain d'ailleurs. Pourquoi un sénateur américain, Jean-Éric Brana?
Alors parce que ce sénateur est en charge de la commission des affaires étrangères. Et que c'est eux qui ont reçu cette notification de la part du président des États-Unis. Le président ne peut pas le faire seul, il doit avertir le Congrès. Et donc il a suivi cette procédure-là et ce sénateur a aussitôt tweeté la nouvelle sur les réseaux sociaux.
Bien, où en est Trump? Plus de 130 000 morts aux États-Unis. Où en est Trump en ce moment? Dites-moi, Jean-Éric.
Trump en est dans le déni. Pour lui, la pandémie est terminée et tout va bien aux États-Unis. Il explique que 99% des cas ne sont pas graves. Il oublie bien sûr les séquelles qu'il peut y avoir. Il oublie que ça continue aux États-Unis très fortement, puisque dans le sud des États-Unis, la pandémie fait des ravages. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il y a plus de morts aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, qu'il n'y en avait au mois de mai. Mais pour le président américain, qui regarde l'ensemble des chiffres, il préfère regarder cela et essayer de jouer l'optimisme, pensant que ça va doper sa cote, alors que pour l'instant, c'est plutôt le contraire. Il faut dire, les Américains sont toujours dans la peur de cette pandémie. Nous, en France, on l'a un peu oublié. On est passé un peu à autre chose, mais les Américains sont toujours très fortement dedans.
Oui, les Américains ont toujours peur de ce coronavirus. C'est vrai que nous, peut-être à tort, je ne sais pas, nous, on a l'impression que ce coronavirus est terminé. Je vais y revenir avec Quentin Vinet tout à l'heure et avec mon invité à 8h10. Mais Jean-Éric Brana, pendant ce temps-là, Joe Biden, lui, dit la première chose que je ferai, c'est que je retournerai à l'OMS. Les États-Unis réintégreront l'OMS. Joe Biden, qui se montre peu et qui se montre toujours masqué, c'est quoi? C'est la volonté d'être totalement à l'opposé de Trump.
C'est la volonté d'abord de montrer qu'il respecte les scientifiques et qu'il écoute les scientifiques et qu'il montre là-dessus une humilité vis-à-vis de ce dossier qui, je crois, sied complètement à son rôle. En effet, vous venez de le dire vous-même, je ne sais pas, quand vous en parliez, et je crois qu'on en est encore tous là, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que il faut quand même le dire, ça nous dépasse un petit peu tous. Alors il y a des débats très virulents, notamment les mêmes qu'en France, hein, sur la chloroquine, sur est-ce qu'il y aura un vaccin ou pas, est-ce que tout le monde va en mourir, à quel âge, etc. Même est-ce qu'il faut repartir à l'école pour les enfants. Les débats sont les mêmes, dans les mêmes termes, et Joe Biden, lui, est très en retrait vis-à-vis de tout cela. Par contre, il a présenté un plan aussi pour lutter contre la pandémie, et il l'a annoncé hier en disant au président des États-Unis, mais n'attendez pas que je sois président, faites-le tout de suite, car ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est bien cette gestion par l'absence, dans le déni total. Et là-dessus, il y a une vraie différence de comportement entre Joe Biden et Donald Trump.
Jean-Éric Brana, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, où en sont les sondages? Si l'élection américaine, si l'élection présidentielle, qui aura lieu en novembre, on le rappelle, avait lieu aujourd'hui, ça donnerait quoi?
Alors, ce serait un carnage pour Donald Trump si c'était aujourd'hui. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'il y a cette décision de retrait de l'OMS en désignant l'OMS comme responsable de cette pandémie, avec la Chine d'ailleurs, ils ne sont pas tout seuls dans la tête de Donald Trump. Mais c'est vrai que les sondages aujourd'hui sont très mauvais. Et pire que ça pour Donald Trump, les seniors aujourd'hui voteraient majoritairement pour Joe Biden. Et si c'était la dernière question, Jean-Jacques, permettez-moi de vous dire que je regrette beaucoup que cette émission s'arrête et je tenais à vous remercier, moi, à titre personnel, je suis sûr que tous ceux que vous avez invités le pensent également, pour votre gentillesse au cours de toutes ces années où nous avons pu travailler ensemble.
Ben ça, Jean-Éric, c'est inattendu et ça me fait vraiment plaisir, Jean-Éric. Hein. Vraiment, mais vous continuerez à intervenir, évidemment, sur l'antenne d'RMC. Merci beaucoup. Et je vous écouterai. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana. Merci. Hein. Merci. Le coronavirus en France, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, redoute une deuxième vague à l'automne ou à l'hiver. Certains médecins craignent même un rebond de l'épidémie dès cet été. Ils pointent du doigt le relâchement des Français. Il faut dire que les responsables politique, notamment, ne montre pas l'exemple en ce moment. Quentin Vinet.
Et oui, hier encore, on voyait des embrassades, des accolades lors des passations de pouvoir avec le remaniement ministériel. Julien de Normandie, par exemple, a même dû faire un rappel au ministère de l'Agriculture. Écoutez.
Je crois que vous avez tout à fait raison. Il faut absolument répéter que ces gestes barrières doivent être respectés. Et quand ça n'est pas le cas, ben c'est pas bien. Voilà.
L'exemple, il n'est pas montré par les ministres.
Non, mais enfin, vous voyez ce que je viens de dire. Et je suis d'accord, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est
ce matin encore.
Je suis d'accord avec vous. Il faut respecter les gestes barrières. Et quand ça n'a pas été le cas, ben ça n'est pas un exemple à suivre. Voilà.
Ah, Julien de Normandie, qui est assez gêné quand oui. L'FM lui a posé cette question.
Enfin, il est honnête hein, dans sa réponse.
Il n'y avait pas beaucoup de masques dans la salle. Il y avait un buffet partagé par tous les convives. Effectivement, il est honnête. Surtout, il n'est pas le seul. À Montpellier, le nouveau maire, Michael Delafosse, a carrément passé un test après la soirée des municipales. Il a notamment croisé pendant cette soirée le bâtonnier de la ville, qui lui a été testé positif. Bon, les nouvelles apparemment sont rassurantes, puisque le test était négatif pour le nouveau maire.
Bien, merci Quentin. Il est 6h20, on va faire un peu de pub. Ensuite, Antoine, qui est à Lyon, puis Charlemagnien, avec les histoires du jour. À tout de suite.
RMC. RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct. Il est 6h25. Si nous prenions Antoine, qui est à Lyon. Bonjour Antoine.
Bonjour Jean-Jacques.
Antoine, vous êtes chef de cuisine, hein?
Tout à fait. Je suis très, très, très content de vous avoir, Jean-Jacques.
C'est vrai, Antoine?
Je suis très ému.
Ouais, bon.
Très ému parce que je vous ai connu en 2001-2002, quand j'ai quitté la Corse.
Oui.
Je travaillais en Corse et en arrivant au port à Marseille, je cherchais les radios et tout, et d'un seul coup, je tombe sur vous, sur votre voix.
Oui.
Et depuis, tous les matins, je vous écoute. Bien avant vous, j'écoute votre équipe, bien sûr, mais à 6 heures, voilà, vous rythmez mes journées depuis presque 20 ans, et je suis vraiment content, content de vous avoir.
Ben moi aussi, ça me touche, je sens l'émotion, Antoine, qui correspond à la mienne, là. Mais...
Très, très aimé. Je voulais vous souhaiter bon vent.
Bah, merci. Bah, je serai là quand même à 8h30 hein, tous les matins, hein, parce que je ne vais pas lâcher ça. La présidentielle approchant, croyez-moi, je ne vais pas la lâcher.
Mais j'espère bien. Ce sera toujours un bonheur de vous écouter et de vous regarder.
Bon, bah, écoutez Antoine, ça me fait vraiment plaisir. Hein.
Moi aussi,
vraiment,
Jean-Jacques.
Vraiment. Puis vous serez avec l'équipe qui reste là, qui sera là, qui assurera la transition. Oui.
Quand je me réveille, avoir Anaïs Castagna...
Ça, je comprends. Je comprends.
Ouais, franchement.
Oui, vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Bon, merci Antoine.
Merci beaucoup. Jean-Jacques, encore une fois.
Mais c'est gentil, Antoine. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir, Antoine.
Au revoir.
Il est 6h27 tous les matins. Trois histoires et trois images avec Charles Magnin. Charles, nous commençons avec le Brésil, où le président Jair Bolsonaro a donc été testé positif au Covid-19.
Mais oui, ça fait des semaines qu'il minimise la gravité du virus, qu'il enchaîne les bains de foule sans porter de masque. Ça devenait assez inévitable. Le président brésilien a fini par être testé positif, comme il l'a expliqué hier à la presse.
Ça a commencé dimanche, je ne me sentais pas très bien. Ça s'est aggravé lundi, j'ai ressenti de la fatigue et j'ai eu 38 degrés de fièvre.
un peu de douleur musculaire.
Les médecins m'ont donné de l'hydroxychloroquine et un antibiotique. Et après, je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien.
Voilà, tout va bien. Il fait l'effort de porter un masque devant les journalistes. Bon, attention, il l'a enlevé deux secondes plus tard afin de montrer son visage à la presse. Il continue de parler de petits rhumes, de petites grippes, alors que le Brésil déplore plus de 65 000 morts du virus. Et l'annonce de ce test positif du président a déclenché une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux au Brésil avec deux hashtags. Força Bolsonaro, courage Bolsonaro pour ses partisans. Alors que ses opposants utilisent le hashtag Força Corona, courage au coronavirus. Voilà, beaucoup de cynisme au Brésil. Quant à l'OMS, que Bolsonaro aime tant critiquer, son directeur général a sobrement souhaité un prompt rétablissement au président brésilien.
À Paris, un restaurant proposait des burgers à 2,50 €. Eh bien, ce restaurant a été obligé de fermer, victime de son succès, Charles.
Mangez et cassez-vous. C'est le nom de ce tout petit restaurant, ce snack, situé dans le 11e arrondissement de Paris, en plein Boboland, Anaïs Castagna.
Oui. Ce qui connaît bien cet arrondissement. Ouais.
Pas partout dans l'11e.
Quartier branché de Paris, on va le dire comme ça. Allez. Avec des burgers donc à des prix défiant toute concurrence, 2,50 € jusqu'à 2,90 € pour ces burgers faits maison. À Paris, un burger en terrasse coûte en général une quinzaine d'euros. Le restaurant a ouvert il y a moins d'un an, ça marchait plutôt bien, mais tout a dérapé au mois de juin quand un influenceur des réseaux sociaux a publié une vidéo tournée dans le restaurant. Il l'a publiée sur le réseau social TikTok, 500 000 likes. Résultat, ces dernières semaines, il fallait faire plus de 2 heures de queue pour acheter un burger. Certains venaient avec leur chaise pliante avant l'ouverture. Le patron a donc préféré baisser le rideau temporairement. Ça nous fait trop mal de vous voir faire autant de queue, dit-il.
Et Bruno, l'ours qui cherche l'amour.
Oui, Bruno est une star, lui aussi, sur les réseaux sociaux. Il vient de parcourir plus de 600 km à pied, ou plutôt à pattes, à travers les États-Unis, du Wisconsin au Missouri. Vous le voyez à l'image. Si Bruno voyage, c'est parce qu'il cherche une compagne. En période de reproduction, sachez-le, les ours peuvent en effet parcourir de très importantes distances à la recherche de femelles. Alors Bruno traverse tout, les routes, les forêts, rien ne l'arrête. Et les internautes le suivent en direct à la trace.
C'est génial.
150 000 fans sur Facebook. Parfois, plusieurs centaines de personnes qui viennent l'entourer et le filmer sur son passage. Les autorités alertent d'ailleurs sur ses comportements assez dangereux. Bruno a dû être recueilli pendant quelques jours dans un zoo pour reprendre des forces avant d'être relâché dans un parc naturel pour poursuivre sa quête de l'amour.
Il est 6h30. Merci d'être avec nous. La machine à café 3216, la touche 5. Quentin Vinet.
Et le mot matin par SMS au 7-32-16.
Anaïs Castagna.
Avant votre face-à-face avec Jean Castex, le nouveau Premier ministre, on sera avec Nicolas Bergeon, le candidat écologiste battu à Prades par Jean Castex, justement. Pour lui, l'arrivée du nouveau Premier ministre à Matignon n'est pas une bonne nouvelle pour l'écologie. Il nous dira pourquoi juste après le journal.
Allez, nous sommes avec Julien Coudreau pour les dernières informations. Il est quelle heure? Il est 6h31. Julien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Pas un bac au rabais, mais un bac pour tout le monde, ou presque. Plus de 91% de réussite avant même le rattrapage, c'est du jamais vu. Mais pas sûr au final que cela soit un cadeau pour les jeunes diplômés. La crainte d'une deuxième vague de coronavirus en France, il faut s'y préparer, dit ce matin le directeur général de la Santé, alors que les études scientifiques démontrent que le virus est sans doute plus contagieux qu'on ne le pensait. Et puis la famille de Philippe Monguillot crie sa colère et réclame justice. Le chauffeur de bus agressé dimanche soir à Bayonne est toujours dans un état désespéré. Témoignage bouleversant à suivre dans ce journal. Le chiffre est énorme et donne du grain à moudre forcément à tous ceux qui anticipaient déjà un bac offert à la génération Covid. Les résultats sont tombés hier soir. 91,5% de candidats reçus avant même le rattrapage. C'est un record. Près de 14 points de plus que l'an dernier. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour les nouveaux bacheliers? Eh bien, c'est loin d'être évident, Thomas Chupin.
Alors les résultats sont exceptionnels, mais ce n'est pas un bac au rabais pour les enseignants. Jean-Rémy Girard est le président du syndicat national des lycées et collèges.
Ce bac, il a du sens dans l'idée qu'on était dans une situation absolument unique et qu'il fallait trouver une solution. On a trouvé celle du contrôle continu. On voit bien qu'en temps normal, c'est probablement pas la bonne, parce que l'on voit que ça crée quand même des bizarreries.
Plus de 90% d'admis avant rattrapage, avec certains qui avaient 7 ou 8 de moyenne. Pour Michel Fiz, sociologue spécialiste de l'éducation, ça n'a aucun sens.
Quand un examen arrive à des taux qui frôlent les 100%, il n'a plus de valeur d'examen. Et ce n'est pas grandir la jeunesse, parce que la vie est faite d'examens. On ne peut pas laisser penser que dès qu'on sera en milieu du travail, vous aurez une carrière sans effort.
Ils seront donc bien plus nombreux nombreux à venir garnir les bancs de l'université à la rentrée prochaine. Et c'est ce qui inquiète Gilles Roussel de la conférence des présidents d'université.
Entre juillet et septembre, il est très difficile de créer des places, trouver des enseignants, trouver des locaux. On est arrivé probablement à la limite du système.
Et il faut rajouter une crainte, le taux d'échec à l'université l'an prochain, alors qu'ils seront de nombreux bacheliers débarqués sans être réellement prêts.
Allez, une pensée hein, ce matin pour les 40 000 candidats qui passent, eux, à partir d'aujourd'hui, les oraux de rattrapage. Il faut se préparer à une reprise de l'épidémie en France. Avertissement de Jérôme Salomon ce matin dans les colonnes du journal Le Figaro. Le directeur général de la Santé met en garde les Français contre tout relâchement, Anne-Sophie Balbir.
Oui, et il insiste. Hein, il faut que chacun, chacune continue de respecter les mesures barrières, distanciation, port du masque. Ce sont nos comportements qui conditionne le risque de regain du Covid-19. Si nous ne sommes pas suffisamment prudents, il faut en effet se préparer à une reprise de l'épidémie, voire à une deuxième vague, dit-il. Et si la situation venait à se dégrader de nouveau, des mesures de limitation de déplacement seraient par exemple envisagées.
Nous ne savons pas tout sur le comportement du virus qui circule toujours, dit encore Jérôme Salomon. Les dernières données scientifiques invitent d'ailleurs plus que jamais à la prudence, Anne-Sophie.
Selon Santé publique France, il y a environ 50% de transmission pendant la période asymptomatique. Nous sommes donc très nombreux à être contagieux avant même de tousser, d'avoir de la fièvre, de perdre le goût, l'odorat. Les dernières données biologiques montrent que la charge virale d'un patient sans symptômes peut être similaire à celle d'un patient qui présente des signes de la maladie. On apprend aussi que près d'un quart des infections restent asymptomatiques, Julien.
Anne-Sophie Balbir, merci. Et dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre une accélération de l'épidémie dans le monde. Plus de 60 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures aux États-Unis. C'est un record. Au Brésil, le président Bolsonaro, qui n'a cessé de minimiser, lui, la pandémie, a révélé avoir été contaminé, mais il assure qu'il se porte bien. En France, le compte n'y est toujours pas pour les syndicats de soignants qui réclament une revalorisation de 300 euros net de tous les agents hospitaliers du public. Hier, Jean Castex leur a promis une rallonge d'1,1 milliard d'euros dans le cadre du Ségur de la santé, ce qui porte l'enveloppe globale à 7,5 milliards. Le Premier ministre, notez-le, invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin, rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV. Le parquet de Bayonne demande la mise en examen de deux suspects pour tentative d'homicide volontaire après l'agression d'un chauffeur de bus dimanche soir. Philippe Monguillot, 59 ans, en état de mort cérébrale, roué de coups pour avoir voulu, vous le savez, contrôler un titre de transport et avoir demandé à des passagers de porter un masque. Une marche blanche est organisée ce soir par sa famille, évidemment dévastée, mais aussi en colère. Jean-Wilfried Forquès avec Olivier Chantreau.
Plongée dans ses photos de famille, Véronique, elle est très creusée. Depuis l'agression de son mari, elle passe par tous les sentiments.
À un moment donné, les yeux ne produisent plus de larmes. C'est vrai, je suis malheureuse, mais j'ai beaucoup de colère, beaucoup de haine. J'ai envie de tout casser, de me mettre en haut d'une montagne, de hurler, de lui dire de venir. C'est très dur et je ne sais pas de quoi il fait demain, je ne sais pas comment on va s'en sortir.
On nous a détruits en quelques secondes, ajoute Véronique, qui ne comprend pas les raisons d'un tel déchaînement de violence.
Celui qui a fait ça, est-ce qu'il est vraiment humain? Est-ce qu'il se rend compte qu'il a quand même arraché la vie d'un monsieur qui est papa, qui est époux, qui a tout pour être heureux et qui ne va profiter de rien? Et est-ce qu'un jour il va se rendre compte de la gravité de ses actes?
Lunettes noires sur les yeux, la voix pleine de sanglots, Mélanie, l'aînée, les trois filles de Philippe oscillent entre chagrin et colère.
On m'a enlevé mon repère ainsi que celui de mes petites sœurs. J'espère que justice sera faite et avec ma maman et mes sœurs, on va se battre pour leur faire payer le plus cher possible.
Mélanie et ses petites sœurs seront présentes ce soir lors de la marche blanche organisée en hommage à leur papa.
6h37 sur RMC, un permis de conduire à prix défiant toute concurrence. Tiens, ça peut vous intéresser peut-être. 729 euros, difficile de faire mieux, c'est ce que propose le site de vente en ligne Cdiscount. Depuis hier, l'offre est disponible dans 50 villes de France, mais elle fait grincer des dents les auto-écoles traditionnelles, Romain Poiseau.
Un permis 35% moins cher qu'en auto-école, un code de la route à 19 euros au lieu de 230, le modèle est voué à se développer, selon Lucas Tournel, président de la start-up Le Permis Libre.
L'année dernière, on a inscrit 60 000 nouveaux candidats au permis. Cette année, on devrait faire au moins x3.
Et qu'on ne vienne pas lui parler de permis low cost.
Nous, on a décidé en fait de faire un permis au juste prix. On a automatisé beaucoup de choses, ce qui permet de réduire le personnel administratif. Et derrière, on travaille avec des indépendants au lieu de travailler avec des moniteurs qui sont salariés. Gérants d'auto-école ou moniteurs viennent travailler avec nous. qu'en fait, on recycle le marché.
Recycler le marché de l'auto-école, faux. C'est une concurrence déloyale pour Philippe Colombani, président du syndicat d'auto-école unique.
Ça tue les auto-écoles, ça me semble une évidence. Alors, le permis libre utilise des auto-entrepreneurs. Et nous, quand on a des contrôles d'URSSAF, on nous dit qu'il ne faut pas utiliser des auto-entrepreneurs. C'est borderline aussi parce que, à ma connaissance, Cdiscount n'a aucun agrément préfectoral pour vendre de l'apprentissage à titre onéreux. Ça se fait avec l'accord tacite des gouvernements et des politiques.
En novembre 2018, Emmanuel Macron avait promis de faire baisser drastiquement le coût du permis de conduire en France.
Il est 6h38 sur RMC. Les courses et le quintet du côté d'Anguin aujourd'hui, Anaïs.
C'est à 20h15, favori numéro 10, Désir Castellet, outsider 6, Django du Bocage.
Il est 6h38, merci. Allez, 6h38, dans un instant, je suis à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà une commune dont on parle beaucoup. Évidemment, pourquoi? Parce que le maire Jean Castex est devenu Premier ministre. Il n'est plus maire, hein. Il a été remplacé à la tête de la ville. Il a été largement élu. Mais dans un instant, je suis avec son adversaire au municipal, Nicolas Bergeouan, qui était tête de liste de Prades en collectif écologiste à Prades, battu donc par Jean Castex, qui sera là, l'opposant à Jean Castex sera là dans deux minutes. En attendant, je vais prendre Dimitri, qui est à Minneapolis. Bonjour Dimitri.
Bonjour, je ne sais pas si je dis bonjour ou bonsoir là, mais en tout cas, très honoré de passer avec vous.
Il est quelle heure chez vous aux États-Unis à Minneapolis?
Eh bien là, il va bientôt être minuit.
Il va être minuit. Minneapolis, rappelez-nous, géographiquement, c'est au cœur des États-Unis, hein, Minneapolis, c'est vraiment...
C'est ça, oui, tout à fait. L'État, en fait, le Minnesota se trouve à la frontière avec le Canada, voilà. Donc on est au milieu des États-Unis, mais au nord, quoi.
Au milieu des États-Unis, entre la côte Est et la côte Ouest. Dites-moi, Dimitri, quelle est la situation concernant le coronavirus?
Eh bien... D'après ce qu'on entend en France, c'est vrai que ici aux États-Unis, la situation est paraît catastrophique, mais le Minnesota, on va dire, s'en sort bien. C'est l'un des rares États où la situation reste quand même assez bien maîtrisée. Donc, j'espère que ça continue.
Au Minnesota, la situation est bien maîtrisée. Vous vouliez nous passer un petit coup de fil, Dimitri?
Ben, tout à fait. Du moins, ça fait quelques temps que je vous écoute le soir pour moi.
Oui.
Vous faites mes soirées et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce serait l'une de vos dernières émissions dans cette matinale. Donc, oui. Je voulais vous dire
il
que...
Il en reste deux. Voilà. Ce matin, deux autres.
Exactement. Donc, heureusement, j'ai réussi à vous avoir. C'était juste pour vous dire que voilà quoi, je voulais vous remercier de cette émission, des moments passés avec vous, même si c'est loin de la France, mais en tout cas vous dire que aussi aux États-Unis on vous écoute et peut-être encore pas mal d'endroits.
Eh ben merci Dimitri, vous êtes chercheur je crois, hein, à Minneapolis. Dans quel domaine?
Oui, je suis dans le domaine des biotechnologies en interface avec la chimie.
Voilà.
Donc, je travaille surtout, on va dire, dans le domaine des produits naturels synthétisés avec des bactéries par fermentation. Donc voilà quoi.
Bien. Ben merci beaucoup, Dimitri. Merci.
Joli
message. Merci. En direct de Minneapolis, aux États-Unis. Il est 6h41. Merci. Nicolas Bergeouan est avec nous dans deux minutes. À tout de suite.
RMC. RMC, 6h-9h.
Il est 6h44, je suis en direct avec Nicolas Bergeouan, tête de la liste battue à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, battue par Jean Castex au municipal. Prades en collectif, c'était la liste de Nicolas, conduite par Nicolas Bergeouan, qui est écologiste. Nicolas Bergeouan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Prades, entre 6 et 7 000 habitants au pied du Canigou. Hein, c'est bien cela. Je ne dis pas de bêtises. Bon, Nicolas Bergeouan, vous êtes fier que le maire de Prades soit devenu Premier ministre?
Bien, les Pradéens le sont. Ils seront contents que leur ville soit mise en lumière de la sorte. Pour moi, je prends ça pour un événement politique. Oui, pour les Pradiens, c'est une fierté, sans aucun doute.
Pour les Pradiens, c'est une fierté. Jean Castex, élu très largement à Prades au premier tour, 75%. Pourquoi, selon vous?
Oh ben, les ressorts de la victoire de Jean Castex, ils sont multiples. D'abord, notre liste était une liste un peu tendre, de gens qui déjà ont eu le courage de venir le défier, mais qui n'avaient pas la notoriété qu'il avait lui. Ensuite, cette liste un peu tendre quand même l'a bousculé, je crois. Elle a fait une bonne campagne et donc il a été obligé de resserrer un peu les boulons de son système. Et puis, par ailleurs, ben, Jean Castex, c'est quelqu'un qui est extrêmement habile socialement.
Ça veut dire quoi, habile socialement? Parce que j'ai besoin d'en savoir un peu plus, Nicolas Bergeron.
Eh bien, ça veut dire que Jean Castex, c'est quelqu'un qui comprend très bien comment marchent les communautés humaines, je dirais, de toutes sortes, petites, grandes, et qui sait très bien repérer dans ces communautés la manière dont on peut les tenir, en quelque sorte, et dont il peut installer son pouvoir dessus.
C'est-à-dire, allez au fond de ce que vous pensez.
Jean Castex, d'une part, il sait très bien... flatter les Pradéens, j'ai envie de dire, par son statut, en quelque sorte, et par la manière dont il se conduit. C'est quelqu'un qui sait être remarquablement affable avec les gens qu'il faut et avec les gens en général. Et puis, c'est quelqu'un qui, encore une fois, sait se mettre en bon terme, je dirais, avec les gens qui ont de l'entre-genre et du pouvoir localement. Voilà. C'est quelqu'un qui comprend bien les situations sociales.
Oui.
Qui sait, encore une fois, s'installer... au centre des sociétés qu'il fréquente.
Bon, alors on va être très concret, Nicolas Bergeron. Est-ce qu'à Prades, il y a la municipalité aide les plus démunis socialement? Est-ce que la municipalité est très active, aide les plus démunis, travaille beaucoup sur le logement social? Est-ce qu'à Prades, il fait bon vivre? Soyons clairs, oui, non?
Je pense qu'il y a plusieurs Prades. Voilà, Prades, c'est un lieu de la France périphérique un peu maintenant. Et il y a plusieurs Prades. Il y a des gens pour qui à Prades, il fait bon vivre. Prades, c'est une ville où il y a notamment beaucoup de retraités qui viennent rechercher un certain calme et qui sont la clientèle politique en partie de Jean Castex. Et pour cela, je crois que tout va bien. Et puis, il y a eu de Prades de gens qui sont presque en marge de la société, je dirais. C'est une Prades avec un chômage endémique, un tiers de la population... proche du seuil de pauvreté, et pour cela, ben, c'est autre chose. Jean Castex vous dirait oui qu'il fait le maximum parce qu'il essaie de lutter contre l'habitat insalubre, parce qu'il essaie de créer des HLM, mais enfin, tout ça est insuffisant à notre goût, parce que ce qui manque à cette ville, c'est de la dynamique économique et sociale, et ça, il n'a pas su le faire pour nous, à Prades.
Bien, Nicolas Bergeron, et sur le terrain écologique, parce que c'est un terrain où il est très attendu.
Non, Jean Castex, c'est pas quelqu'un qui a la fibre écologique, hein, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui s'est mis à l'écologie en quelque sorte, ou au localisme un peu sur le tard, notamment en essayant de provisionner les cantines par des produits locaux depuis quelques années. Mais tous les pas qui sont faits dans ce sens manquent de franchise et sont faits avec beaucoup de retard. Voilà.
Le circuit court, c'est une bonne idée, ça, quand même, Nicolas Bergeron, vous le savez. Ah. Enfin, c'est indispensable, d'ailleurs. Hein. Indispensable.
Ah, mais tout à fait, nous ne sommes pas des opposants stériles, hostiles et complètement butés, mais force est de constater, il le reconnaît lui-même. Il est venu par la discussion avec des maires de petites communes alentour dans le cadre de la communauté de communes, et pour nous, écologistes, très tard, il y a quelques années à peine.
Bien. Merci beaucoup, Nicolas Bergeron. Merci, dans tous les cas, d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté. Vous habitez Prades, vous habitez la région, vous connaissez Jean Castex. N'hésitez pas, 3216rmc.fr. André est à Avignon. André, Avignon, dans le Vaucluse. Ça va, André?
Jean-Jacques, bonjour. Jean-Jacques, j'ai le cœur serré.
Ah bon?
Je vais essayer de tenir le coup.
Oui.
Merci, Jean-Jacques, parce qu'il y a 15 ans, grâce à vous, grâce à vous, j'ai passé une annonce, j'avais plus de travail, j'avais plus rien. Dans la même journée, j'ai trouvé un travail. J'ai retrouvé un travail, depuis, ça va très très bien. Ça va très très bien, j'avais un restaurant à Châteauneuf-d'Ipape, je viens de changer de vie, tout va bien. Mais quelle émotion à l'idée de plus vous se réveiller le matin avec vous. Vraiment. J'ai l'impression de perdre un grand frère. Et ça va dur. Voilà, merci Jean-Jacques. On est là, on est tous tristes. Moi, ça fait, voilà, on est tous comme ça. J'ai envie de vous dire, on vous adore, on vous aime. Merci de votre humanité, de votre professionnalisme, de ces interviews, de ces matinales. Sincèrement, Je pense pas que je pourrais écouter RMC.
Mais si, André.
Voilà, en
mais
tout cas,
si.
Jean-Jacques, vraiment.
Oui.
J'espère qu'on se verra. On s'est déjà croisé. Bah. Moi, j'ai pas eu le truc de la personnalité, donc c'est un petit bonjour comme ça. Bon. Mais là, c'est vraiment une émotion qui parle.
Bon, ben merci, voilà. André. Merci, ça me touche beaucoup. Hein. Merci, André.
Par contre, Jean-Jacques, une chose. J'aurais allez-y. Tellement plaisir à vous offrir une bouteille de shot invitable de chez mes amis. Dites-moi au standard comment je peux le faire. De façon discrète et sans retour, sans rien, mais avec vraiment pour que un jour vous puissiez boire quelque chose, que sentir qu'il y a des gens derrière qui pensent à vous, qui vous aiment.
Bien, merci beaucoup, André. Merci.
Merci,
ça me touche. André, merci. D'ailleurs, les interviews politiques, c'est une chose, mais j'ai commencé vraiment, vraiment à adorer la radio quand, sur RTL, j'ai commencé à dialoguer avec les auditeurs. Avant, je faisais du journalisme sportif, j'ai présenté tous les grands journaux sur RTL, mais les auditeurs ont la parole, ça a été pour moi une grande rencontre. Et on a poursuivi ça sur RMC pendant tant d'années. Bien, il est quelle heure ? Il est 6h51. Anaïs, qu'allons-nous faire ?
On part en randonnée avec un sac tout léger. Alors vous allez dire, c'est pas possible. Rien n'est impossible avec Anthony Morel. La preuve dans un instant, tout de suite.
RMC, c'est déjà demain.
Bon, c'est déjà demain avec Anthony Morel. L'été, les vacances, les grandes balades en forêt, les randos en montagne.
Et bien sûr.
Voilà notre ami Anthony Morel, équipé pour l'été. Ah bah vous êtes prêt à partir là,
quasiment,
Anthony.
Quasiment. Je vous ai apporté mon sac déjà.
Oui.
Alors, il est un petit peu particulier. C'est une innovation.
D'abord, vous pouvez changer la couleur. Hein,
oui, ça va. C'est bon. Vous pouvez choisir. Vous pouvez changer, vous pouvez choisir la couleur.
Donc, parce que la couleur n'est pas terrible. Regardez sur RMC Découverte.
Au moins, on ne vous perd pas de vue. Voilà, quand vous êtes en rando.
Ça, c'est sûr. Ça, on vous voit de loin.
L'innovation, elle n'est pas électronique ou connectée comme je vous présente souvent, mais c'est très, très ingénieux. C'est une start-up française qui a mis au point ce sac qui s'appelle le Gravipack, qui a été conçu...
Le Gravipack.
Le Gravipack, parce qu'il est en gravité sur vos épaules, quasiment. En fait, il a été conçu pour ne quasiment rien peser lorsque vous le mettez sur vos épaules. C'est-à-dire que quand je le prends... Alors, j'ai mis 7 ou 8 kilos de
poids
à l'intérieur, il est assez lourd, mais quand je le mets sur mes épaules, hop, je vais essayer de le faire correctement, eh bien, je ne sens quasiment rien. Alors, il y a quand même quelque chose, mais en fait, le poids est réparti de manière optimale, ce qui fait que j'ai presque l'impression qu'il n'y a rien sur mes épaules. Qu'est-ce en fait, à l'intérieur, alors, l'innovation, elle est dans les bretelles. Les bretelles, elles sont très rigides, je ne peux pas les tordre, vous voyez. En fait, vous avez des inserts métalliques qui vont répartir le poids et faire en sorte qu'il se porte notamment sur les muscles des hanches. Ah, et donc, du coup, Ah ouais, mais c'est très, très malin. C'est un ancien ferronnier d'art.
Ils sont très forts en marketing.
C'est un ferronnier d'art qui a mis ça au point. Il a créé cet insert métallique. C'est pas du marketing. Pour le coup, je vous le dis, je le porte. Alors, j'en fais quand même l'expérience. Et pour le coup, vous avez presque l'impression de ne rien porter.
On devrait limite l'utiliser pour les enfants, en fait.
Oui, pour les cartables.
Il y a une version cartable qui va sortir.
Évidemment.
Et puis, il travaille aussi avec l'armée, avec les pompiers qui sont aussi intéressés.
C'est le footballeur Bakary Sagna qui a investi dans cette entreprise.
Qui a investi dans une start-up. Oui, oui. C'est un de ses amis qui a mis ça au point. Ils ont gagné des concours d'innovation, des concours l'épine. Le concours l'épine, notamment, ils ont gagné un prix. Donc, non, c'est assez malin, franchement.
Bon, et ne partez pas en randonnée sans votre smartphone.
Alors, on peut plus maintenant. Alors vous avez des dizaines d'applications qui sont très très bien fichues pour alors à la fois tracer son itinéraire, utiliser des cartes quand on n'a pas de réseau autour de soi, ça peut arriver quand on est en randonnée. Alors il y a une application qui s'appelle View Ranger, qui est très bien fichue, qui utilise la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous pointez votre téléphone en mode appareil photo. Par exemple, vous avez des montagnes en face de vous et on va vous donner le nom des sommets tac 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 au fur et à mesure que vous tournez votre téléphone en temps réel. Donc vous avez en fait tous les points d'intérêt, tous les itinéraires possibles, tous les noms des différentes montagnes qui s'affichent sur votre téléphone directement devant vous. Voilà, donc c'est pas mal pour agrémenter les balades. Ça, c'est assez malin, ça s'appelle View Ranger. Une autre application française aussi qui s'appelle IGN Rando, qui utilise des cartes IGN, qui est très très bien fichue aussi. Donc voilà, des petites applis à télécharger pour les balades.
Très bien. Et si mon téléphone tombe en rade ?
Vous êtes mal. Non, il faut, faut la batterie. La batterie d'appoint, évidemment, ça c'est le classique. Alors on a les batteries, vous savez, qui fonctionnent à l'énergie solaire. Mais alors ça fonctionne fonctionne assez mal globalement. Oui. Puis il faut qu'il y ait du soleil.
Ça fonctionne pas du tout. Même.
Ouais, ça fonctionne pas très bien effectivement. Et alors la nouvelle, ce qui est en train d'arriver là, c'est les batteries sous forme d'hydroliennes. Donc en gros, vous avez trois hélices. Vous mettez ça dans un cours d'eau. Vous êtes en train de faire une petite pause au bord d'une rivière, par exemple. Il y a des hélices qui tournent, qui activent une turbine et ça va recharger votre téléphone. Bah oui, non, bah attendez. Ouais. Eh bah si vous avez plus de, si vous avez plus de batterie ouais. Et que vous êtes poursuivi par des ours, vous serez bien content.
Ah oui, d'accord.
Et d'accord.
Oui, dans ce cas-là, oui. Oui.
Non.
Oui, bon, allez, merci Anthony. Françoise est à Marseille, une Marseillaise. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour Jean-Jacques, je suis très émue de vous avoir. Ben, je vous regarde aussi. Tous les jours et quand je vais travailler, je vous enregistre quand je ne peux pas vous voir pour vous regarder en rentrant.
Vous nous enregistrez, vous nous regardez en rentrant.
Oui, parce que comme ça, je ne vous rate pas. J'adore votre émission. Je suis désolée que vous arrêtiez. Quoi.
Oui, c'est comme ça, c'est la vie.
C'est la même chose, mais comme ça, je ne rate jamais vos émissions.
Bon, Françoise, ben, ça me fait plaisir. C'est une fidélité, ça, à toute épreuve.
Vous regardez. Je regardais les anciennes émissions.
C'est la télé que vous regardez, hein, François.
Oui. Bon. Oui, je regarde et quand je travaille, eh ben, je vous enregistre.
Bon. Merci beaucoup, François.
Vous adore.
Merci. Ben, nous aussi, et on vous embrasse.
Je vous remercie, je vous embrasse aussi.
Merci.
Au revoir, François. Merci, au revoir.
Au revoir. Il est 6h58. Étienne est au Chambon-sur-Lignon. Voilà une commune que je connais très très bien, Haute-Loire. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour, oui, il me semble que vous connaissez bien ce village, effectivement.
Oui, gros village, le Chambon-sur-Lignon, village. Alors, certains ont dit que j'étais allé faire une partie de mes études, très courtes des études, hein, je le dis tout de suite, mais au Collège Sévenol, ce qui est faux, hein, je ne suis jamais allé au Collège Sévenol. En revanche, j'ai passé de nombreuses vacances l'été avec mes parents au Chambon-sur-Lignon. Chambon-sur-Lignon, une commune juste, hein, qui a sauvé beaucoup d'enfants juifs pendant la dernière guerre. Étienne.
Voilà, c'est l'histoire, effectivement.
C'est l'histoire. Étienne, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Vous vouliez nous dire que vous aviez gagné?
Voilà.
Oui, vous avez gagné, Étienne. Vous avez gagné la machine à café et les capsules qui vont avec, Étienne. Et j'en suis très heureux.
Et merci. Je suis très content de vous avoir eu avant vos vacances et votre départ.
Bien, merci Étienne. Merci. Au revoir, merci. Étienne, technicien au Chambon-sur-Lignon. Il est 6h59, vous êtes sur RMC.